Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio G, 101.5 FM, il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison d'Europe Angers, Maine-et-Loire, Europe Direct va vous faire découvrir l'expérience d'expatriation de Laureline en Hongrie. Bonjour Laureline.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Donc voilà, je suis française, j'étais étudiante ici à Angers à la faculté de droit en 2004 et je suis partie en Hongrie continuer mes études en 2005. J'étais partie initialement pour 2 années avec mon copain de l'époque, hein, qui est mon mari maintenant, et nous nous sommes installés finalement, nous sommes restés après mes études en Hongrie pendant une quinzaine d'années. J'ai d'abord été assistante enseignante à l'université donc de Szeged, dans le sud du pays, où j'ai pu donner des cours en droit administratif, droit civil, auprès d'étudiants hongrois. Et ensuite, je suis devenue responsable académique d'un master en droit européen. Et en parallèle, j'ai eu un poste avec la Belgique, hein, donc Wallonie-Bruxelles International, en tant que chargée de coopération académique et culturelle, où là, je devais essentiellement assurer des événements qui faisaient rayonner la Belgique, hein, francophone en Hongrie, parce que c'était quelque chose qui n'était pas très connu. Enfin, la Belgique francophone n'était pas très connue en Hongrie. Et à côté de ça, donc, je continuais aussi les enseignements en droit européen. Et le master dans lequel je travaillais est devenu un master en relations internationales. Donc voilà, tout ça pendant 15 ans. Parce qu'on est parti, donc quand je suis partie, j'ai fait mon master, hein, c'était 2 années de master, donc je suis restée 17 ans en tout dans le pays. Et entre-temps, justement, mon mari, on s'est mariés, on est partis, donc, comme je disais tout à l'heure, tous les deux, et on a eu 2 enfants.
Alors, qu'est-ce qui a changé le plus, justement, dans ton quotidien quand tu es arrivée en Hongrie au début ?
Alors, il faut savoir que donc, quand je suis arrivée, c'était en 2005, ça faisait 1 an que la Hongrie était entrée dans l'Union européenne. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même des infrastructures un peu anciennes, je ne vais pas dire vétustes, mais plutôt anciennes. Je me rappelle les transports en commun, c'est ce qui m'avait un petit peu interpellée. Il y avait aussi, ce qui a changé énormément, c'est la langue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'étais non pas à Budapest, mais à Szeged, donc une ville dans le sud du pays. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, très peu de personnes parlaient anglais. Bon, les jeunes à l'université l'apprenaient, mais dans les commerces, c'était très, très difficile en fait, de se faire comprendre. Donc la langue a été effectivement quelque chose qui a changé mon quotidien radicalement. Et une petite particularité aussi qui va peut-être faire sourire, mais ce qui a changé aussi totalement mon quotidien, c'est la luminosité, surtout l'hiver, parce que la Hongrie est un pays d'Europe centrale qui est calé sur les heures comme en France, hein, parce que la Roumanie, qui est juste à côté, elle, a 1 heure de plus. Et donc, un décalage horaire, je ne sais plus si c'est plus ou moins. En tout cas, c'est vrai que l'hiver, il faisait nuit à 4 heures. Donc, du coup, ça change radicalement un quotidien, on ne se rend pas compte, dit comme ça. Mais l'hiver, il faisait froid à ce moment-là. On était j'ai eu jusqu'à moins 17 degrés. Donc, à 16 heures, finalement, tout le monde est enfermé chez soi. Donc, voilà. Après, l'été, forcément, il fait plus chaud, c'est plus agréable, mais il fait aussi nuit plus tôt.
D'accord. Alors, à part la météo et puis les horaires, est-ce que tu as eu des difficultés pour t'adapter ?
Alors, des difficultés, pas vraiment, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Quand je suis partie, c'est vrai que c'était une volonté de ma part. Donc, quand j'étais ici étudiante à Angers, j'avais déjà en tête de partir en Hongrie. C'était un pays pour moi opportun, parce que je voulais continuer dans le droit européen. Et tous mes amis à l'époque partaient dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est quelque chose de très commun pour améliorer l'anglais. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas la Hongrie, qui vient juste de rentrer dans l'Union européenne, qui n'est pas connue, qui gagne à être connue. Peut-être qu'il y aura des opportunités pour l'avenir. Donc, j'ai eu un très bon accueil parce que, par chance aussi, mon mari était aussi un grand amoureux de la Hongrie, des pays d'Europe centrale, et il avait des connaissances là-bas. Et du coup, certaines de ses connaissances nous ont aidés à trouver un logement avant notre arrivée. Et puis, le master dans lequel je suis arrivée était un master en langue française, donc, qui était dirigé par par un Hongrois, mais dans l'équipe, c'est vrai que beaucoup parlaient français. Et ils m'ont très bien accueilli, ils m'ont très bien accompagné, parce que là aussi, donc, c'était tout juste l'entrée dans l'Union européenne, donc toutes les facilités qu'on connaît maintenant, elles n'existaient pas à l'époque. Et donc, au niveau de la santé, je n'avais pas la carte européenne, donc ça a été une petite difficulté. Disons que c'était moins facile que maintenant. Mais voilà, ils m'ont aidée et mon mari, pareil, lui, était parti un peu en freelance. Il avait un travail ici, mais il a trouvé quelque chose. Enfin, il travaillait, il faisait cumulait des petits boulots là-bas sur place. Et donc, là aussi, il a été accompagné par ces mêmes personnes. Donc, il n'y a pas eu de grandes difficultés grâce à ça. Mais là aussi, peut-être la difficulté que je mettrais en avant, c'est la langue, hein, toujours. Parce que c'est vrai que j'avais pris un mois de cours ici à Angers, de hongrois, mais ça ne suffisait pas du tout pour pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours. Et voilà, bah après, on n'avait pas le choix. Il fallait plonger dans l'univers de la langue hongroise. C'était une bonne expérience.
Donc oui, justement, en parlant du hongrois, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots ou quelques expressions utiles que tu as appris en hongrois ?
Alors, les expressions... Alors, oui, expressions utiles, je dirais pas... Enfin, j'ai vécu donc 17 ans là-bas. C'est vrai que tous les mots étaient utiles. Quand on vit dans un pays pendant plusieurs années, on va plutôt, en fait, apprendre en fait, au fur et à mesure des périodes de la vie, je dirais. J'ai d'abord commencé... Alors, la langue, je n'ai pas pu l'acquérir si rapidement. J'avais quelques cours en hongrois, mais très peu, parce que je faisais partie des étudiants. Donc, j'avais les cours de langue qui étaient dispensés pour les Erasmus, bien que je n'étais pas Erasmus à ce moment-là. Mais j'ai été intégrée, en fait, dans le groupe d'étudiants Erasmus. Mais là aussi, c'était quand même assez léger, en fait, pour pouvoir bien se débrouiller dans la vie de tous les jours. Et j'ai appris sur le tard, en fait. On a acheté une maison, donc il a fallu apprendre le vocabulaire immobilier. On a fait des travaux dans la maison, donc on a appris le vocabulaire lié aux travaux de la maison. J'ai été enceinte, j'ai suivi les enfants à l'école. Enfin, voilà, c'est tous les événements de la vie qui ont fait qu'on a pu enrichir, aussi bien mon mari que moi, notre vocabulaire hongrois. Et voilà, et tout est utile, je dirais. Et c'est vrai que... Un élément, une période qui a accéléré l'apprentissage de la langue, c'est les enfants et le fait que voilà, ils aillent à l'école, qu'on rencontre les parents, qu'ils aient des amis, qu'on les invite, etc. Et d'ailleurs, ça faisait des petites histoires assez drôles quand ils venaient, copains, copines, quand ils venaient à la maison, ils étaient toujours surpris de m'entendre parler hongrois parce que j'ai forcément l'accent français. Donc voilà, ça faisait des petites histoires assez rigolotes. J'imagine quand ils rentraient chez leurs parents le soir.
Quels sont les mots que tu préfères ou que tu trouves amusants en hongrois, peut-être ?
Alors, il y a un mot que j'adore, comme peut-être toute maman, en fait, c'est Anya. Donc, ça veut dire maman. Et je le trouve très doux. Et c'est vrai que depuis qu'on est revenu en France, mes filles ont perdu ce mot. Donc, j'essaie toujours de leur dire je préfère Anya que maman, parce que ça nous garde, enfin, ça garde cette petite. Ce petit côté en fait qu'on avait, ce petit côté hongrois qu'on a eu là-bas et qu'on aimerait encore garder. Mais sinon, c'est vrai que il y a un mot qui est assez festif ou plutôt une expression, c'est Boldog Születés Napot, joyeux anniversaire. Donc, ça serait un mot à retenir. Et là, je fais un clin d'œil à mes collègues parce que voilà, ils l'ont déjà entendu pour certains qui ont fêté leurs anniversaires. Et voilà, c'est un mot qui se veut festif, qu'on emploie souvent en anglais. Bah, pourquoi pas en hongrois, si on veut faire dans l'originalité.
Par rapport à tes filles, alors, est-ce que vous parlez parfois hongrois à la maison ? Est-ce que ça leur manque de parler hongrois ? Ou justement, elles sont soulagées de repasser au français ?
Non, en fait, elles sont nées là-bas. Je dirais que leur langue maternelle, c'est le hongrois. Parce que du coup, elles ont vécu avec le hongrois au quotidien, bien que mon mari et moi, à la maison, on parlait que le français. Il y a eu de nombreuses années pendant lesquelles elles n'ont pas du tout parlé en français. Jusqu'à leur 7 ans, elles ne parlaient que le hongrois. Et c'est vrai que je me posais des questions, puisqu'à la maison, nous, on parlait en français. Donc pourquoi si tardivement ? Et bon, comme j'étais un peu, j'avais des relations avec... l'Institut français à Budapest, il y avait souvent des enseignants de français de spécialité qui venaient, on échangeait là-dessus, qui connaissaient les enfants bilingues. Donc ils me disaient non, non, c'est normal, ça va venir d'un coup. Et il y a eu le confinement. Et effectivement, le fait d'avoir été confiné, alors en Hongrie c'était moins strict qu'en France, mais on est resté confiné une bonne semaine de confinement, où on n'avait pas le droit de sortir, mais après les écoles sont restées fermées. Et j'avais la chance de pouvoir rester en télétravail, parce qu'en Hongrie on retournait hein, quand même travailler, le télétravail était très peu développé, mais je travaillais à l'université, donc du coup les étudiants eux aussi restaient à la maison. Donc du coup avec mes filles, ben, c'est là que c'est venu, c'est là qu'elles ont... commencer à parler en français et c'est vrai que ça a été d'un coup en fait. C'est comme des éponges, elles ont tout emmagasiné les mots et puis bah, c'est sorti comme ça. Mais oui, ça leur manque, bien sûr. Le hongrois leur manque énormément, la Hongrie leur manque, c'est indéniable. Ça fait 2 ans qu'on est revenu et c'est encore, enfin 1 an et demi, c'était en septembre l'année dernière, donc c'est encore tout frais dans leur tête et elles nous en veulent des fois d'avoir quitté leur pays, comme elles disent.
Bon, bah pour justement nous faire un petit peu découvrir la Hongrie, est-ce que tu aurais des conseils de choses à faire, de choses à visiter, découvrir si on y va ?
Pour les Français, ou comme beaucoup de touristes, c'est vrai qu'on va penser à Budapest. Quand on parle de la Hongrie, on pense forcément à la capitale, comme beaucoup de pays. Budapest est une très belle ville. Il y a beaucoup de choses à voir, donc je conseillerais d'aller voir tous les monuments historiques hein, de la ville, que ce soit le Parlement, que ce soit le château, que ce soit la basilique, la place des héros. Enfin, il y en a énormément, je ne vais pas tous les énumérer, mais... On prend un simple guide du routard, j'ai envie de dire, et puis voilà, on peut trouver les destinations typiques, je dirais, de Budapest. Mais pour aller voir plus loin, peut-être qu'il y a cette petite ville, Szentendre, qui est une ancienne cité médiévale qu'on appelle la ville des artistes, qui vaut le coup d'œil. C'est à 45 minutes de Budapest, donc on peut aller soit en train, soit en bateau. Donc moi, je suis allée plusieurs fois en bateau, je le conseille, c'est sympa en même temps, ça me permet d'être sur le Danube. C'est du côté de la rive droite du Danube, mais voilà, si on a le temps, je conseillerais d'aller pousser peut-être un petit peu plus loin de la capitale. Et puis, si on a encore plus le temps, je dirais d'aller en province. Il y a le lac Balaton, évidemment. Et puis, j'ai envie de dire Szeged, voilà, c'est mon cœur qui parle, mais Szeged qui est à 2h30 en train de Budapest. Sinon, on loue une voiture, on y est en 1h30, hein, parce que bon, le train hongrois est encore assez lent. Mais ça vaut le coup aussi, c'est une ville qu'on peut visiter sur 2 jours. C'est une belle petite ville du sud, où il fait toujours beau. C'est la ville du soleil, donc là-bas, il faisait... enfin, surtout au printemps, été, hein, parce que par rapport à ce que j'ai dit, l'hiver est quand même rude, mais froid. Je ne vais pas dire c'est un froid sec, hein. Il pleut... rarement. Malheureusement, la neige, c'est assez, de plus en plus rare également. Mais voilà, j'inviterai les Français à aller voir plus loin s'ils ont le temps, évidemment. Ah oui, et il y a aussi une chose à laquelle il faut tester, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas ici, ce sont les bains. Les thermes, alors on les a à Budapest, elles sont très belles, hein, il y en a plusieurs, mais il y en a aussi en province, parce que c'est vraiment quelque chose de typique en Hongrie.
Et en spécialité culinaire, est-ce que tu aurais des recommandations particulières ?
Alors, là aussi, je vais sortir les basiques hein, de la cuisine hongroise que peut-être beaucoup de personnes connaissent. On a le perkölt, le goulash. Donc, le goulash, ce qu'on peut connaître, nous, en France, c'est sous forme de plats préparés à base de viande de bœuf. Mais en Hongrie, on va le manger en soupe. Il faut savoir que les Hongrois mangent une soupe tout le temps. En entrée, tout le temps, que ce soit l'hiver, l'été, ils mangent une soupe. Donc, ça arrive peut-être souvent, si on va au restaurant, de voir en entrée soupe et puis après le plat de résistance, mais chez nos amis, c'était très, très récurrent. Mais là aussi, donc, peut-être que si je peux conseiller autre chose que les basiques, alors c'est très subjectif parce que moi, c'est des choses que j'adorais, évidemment. Il y a les crêpes ortobadi. Donc là, ce sont des crêpes. Alors, plutôt, nous, c'est crêpes de froment, mais elles ne sont pas sucrées. Ce ne sont pas les galettes de blé noir. Hein. C'est vraiment les crêpes de froment non sucrées. Et dedans, on va avoir de la viande hachée de veau. avec des oignons, du poivron et puis une petite une sauce. C'est super bon. C'est vraiment à découvrir. Et puis, il y a aussi, et là, je fais un clin d'œil à mon ami en Hongrie, les toltot kaposta, comme on dit en hongrois. Ce sont des choux farcis. Et j'en ai jamais mangé au restaurant, j'en ai mangé que chez mes amis. Et là, ils sont, c'est succulent, tout simplement succulent. Donc, c'est fait dans le four traditionnel qui est dehors, qui cuit, enfin, qui marine là aussi dans une sauce pendant plusieurs heures. Et c'est vraiment très bon. Et puis, bah, le sucré, les pâtisseries hongroises, là aussi, c'est très connu. C'est un peu différent d'ici, parce que ce ne sont pas des tartes, ce sont plutôt des gâteaux à base de crème. Mais voilà, c'est à découvrir aussi. Il y a beaucoup de très bonnes pâtisseries en Hongrie.
Ça donne faim. Et donc, peut-être plus sur le côté traditionnel, si tu avais à choisir ou à parler d'une tradition emblématique de la Hongrie, ça serait laquelle ?
Si je peux me permettre, j'en aurais deux. La première, c'est à Pâques. Ils ont une tradition assez particulière. C'est-à-dire que les hommes vont arroser les filles le jour de Pâques. Alors, si on veut le faire soft, c'est avec du parfum. Un peu moins soft, c'est avec un petit jet d'eau. Et beaucoup, beaucoup moins soft, c'est avec un seau d'eau. Et donc, il y a une ville dans le nord de la Hongrie, pas très loin de Budapest non plus, ça s'appelle Holoke. Et là, c'est vraiment très traditionnel. Si on veut vraiment voir une tradition hongroise, il faut aller le jour de Pâques dans cette ville. Et les femmes hongroises en tenue traditionnelle, les hommes aussi, les hommes jettent les seaux d'eau sur les femmes hongroises. Donc voilà. Alors moi, j'ai un mari français, donc je n'ai pas eu la tradition. Mais nos amis venaient nous voir pour respecter la tradition hongroise, comme ils disaient souvent, de l'arrosage. On dit que c'est, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est pour que la femme soit féconde. Enfin, et une autre tradition aussi qui m'avait beaucoup marquée, parce que c'est un jour triste, hein, la Toussaint. Les Hongrois arrivent à rendre ce jour plutôt, je dirais pas joyeux, mais avec un peu plus de gaieté, puisqu'ils vont dans les cimetières le 31 au soir et ils allument plein de bougies. Et là aussi, quand on est arrivé, on a nos amis hongrois, que mon mari connaissait, nous ont amenés dans un cimetière le 31 octobre. Et du coup, on a été surpris de voir toutes ces tombes illuminées. Et donc, je trouvais que ça donnait un côté un peu plus solennel, disons, de cette fête.
Donc, si on visite la Hongrie, est-ce qu'il y a des choses particulières à éviter de faire pour ne pas être impoli ?
Oui, je dirais oui. Quand on va chez les gens, la tradition, c'est pas une tradition forcément, mais c'est une habitude plutôt, c'est qu'on enlève nos chaussures. Donc, en général, ils donnent les chaussons, mais on ne va pas rentrer dans la maison avec ses chaussures. Et ça, alors nous, quand la famille venait nous voir en Hongrie, machinalement, nous aussi, on a transmis cette habitude. Mais depuis qu'on est revenu en France, on l'a perdue. Et il y avait aussi quelque chose à éviter. Et ça, on l'a appris à nos dépens, c'est parler du Trianon. Parce que les Hongrois sont encore très fortement marqués par ce pan de l'histoire dans leur pays, quand ils ont perdu une grande partie de leur territoire. Et donc, même encore maintenant, ça reste un sujet très, très sensible.
Et donc, par rapport à ton retour en France, en famille, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir en France, finalement ?
Alors, il faut savoir qu'on n'a pas quitté la Hongrie de gaieté de cœur. Donc, ce n'est pas l'envie qui nous a guidés. C'est plutôt... une décision mûrement réfléchie avec mon mari, étant donné la tournure politique que prenait le pays. Donc ça, c'était un point. C'est vrai qu'on voyait aussi l'avenir de nos enfants. Donc au niveau de l'éducation, on ne voyait pas un avenir radieux, ou en tout cas tel que nous, on l'attendait là-bas. Au niveau de l'économie non plus, encore moins au niveau de la santé. Malheureusement, on a eu l'occasion de tester le système de santé hongrois, et je dirais surtout les hôpitaux, parce que les médecins sont très bons. Je critique absolument pas la médecine hongroise, ils sont d'ailleurs très réputés, mais c'est surtout sur les infrastructures. Donc, ils ont très peu de moyens. Et donc, pour ces raisons-là, oui, on a pris la décision de repartir, enfin de revenir en France. Et il y a aussi l'effet Covid, c'est indéniable. Comme beaucoup de personnes, je connais beaucoup d'expats qui sont revenus à cause du Covid. On a été éloignés de notre famille. La Hongrie avait fermé ses frontières, donc on ne pouvait pas quitter le pays. Si jamais, c'est vrai qu'il arrivait quelque chose à notre famille à ce moment-là, il était arrivé, pardon, quelque chose à notre famille, on n'aurait pas pu en fait quitter la Hongrie pour venir les voir. Donc ça nous a fait, oui, réfléchir.
Et justement, par rapport à ce retour, est-ce que vous aviez des appréhensions en revenant en France ?
La seule appréhension qu'on avait, c'était de savoir si on avait pris la bonne décision. Pour nous, mais aussi pour les enfants, on se questionne beaucoup. 17 ans de vie à l'étranger, c'est pas rien. On était installés là-bas, on avait tous nos amis. Enfin, on a toujours, hein, on les a pas quittés, ils restent toujours dans notre cœur. Mais le travail, la maison, on avait acheté une maison qu'on avait rénovée là-bas. Voilà, nos filles, évidemment, ont commencé leur cursus scolaire là-bas. Elles avaient leurs amis, leur école de danse qu'elles affectionnaient particulièrement. Donc du coup, oui, c'était surtout de savoir si on avait pris la bonne décision, mais pas d'appréhension particulière. Non.
Et plus positif peut-être, qu'est-ce que maintenant tu apprécies le plus en France depuis ton retour ?
Le rythme, le rythme à la française, voilà, les apéritifs entre amis. Je dis ça parce qu'en Hongrie, les apéritifs, ça n'existait pas. Ou en tout cas, on ne passait pas autant de temps autour voilà, d'un verre ou d'un dîner pour échanger, se poser en fait. Alors la vie en Hongrie est très calme, elle est beaucoup moins stressante qu'ici, mais on prend moins le temps de vivre autour, à la française tout simplement, le mode de vie à la française.
Et aussi, qu'est-ce qui te manque le plus de la Hongrie depuis que tu es revenue ?
Indéniablement, en premier, ce serait les amis. Vraiment, les amis. On avait une famille de cœur aussi là-bas, parce que les parrains de nos filles sont nos amis hongrois. Il nous manque énormément, mais on est déjà retourné deux fois les voir. C'est pas loin, la Hongrie n'est pas loin, donc... Même en voiture, ça se fait très facilement. Enfin, en tout cas, nous, on va en voiture. Après, je suis épanouie dans le travail que j'ai trouvé ici à Angers. Je m'y plais. Mon mari a eu la chance, lui, de garder son travail en Hongrie. Donc, c'est aussi grâce à ça qu'on peut retourner, parce que lui retourne travailler là-bas une fois tous les deux mois. Alors, il est en télétravail le reste du temps, mais du coup, il amène les enfants. Voilà, on revoit aussi, on garde ce lien avec le pays. Mais même s'il n'y avait pas eu ça, on aurait gardé le lien. Voilà, notre maison. Notre maison.
Et justement, après cette expérience d'expatriation dans un autre pays de l'Union européenne, est-ce que tu te sens plus européenne qu'avant ou pas forcément ?
Oui, indéniablement. Alors, on dit toujours les voyages forment la jeunesse. Je suis partie, j'avais 21 ans. Donc, c'est vrai que j'étais assez jeune et avoir eu cette chance, en fait. Enfin, je l'ai provoqué, la chance. Hein. C'est vrai que je voulais partir en Erasmus, faire un an d'Erasmus pour mon master. Malheureusement, il n'y avait pas d'échange à l'époque entre l'université d'Angers et une université hongroise. Du coup, je suis partie de mes propres moyens, mais je ne regrette pas, parce que d'avoir rencontré une autre culture, d'avoir pu, en fait, m'enrichir professionnellement parlant et aussi personnellement, ça crée justement ce sentiment européen que peut-être d'autres personnes qui restent dans un pays, dans leur pays d'origine, ne vont pas avoir. L'Union européenne, sa devise, c'est unie dans la diversité, et je trouve que c'est très parlant quand on a cette possibilité d'aller dans un autre pays, ne serait-ce que quelques mois. Hein. Je vois à l'université ici à Angers, on a beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger. J'ai envie de leur dire, mais allez-y, foncez. Ça, forcément, vous allez vous sentir non seulement plus européen, vous allez voir aussi quels sont les avantages, hein, de l'Union européenne qu'on voit pas forcément au quotidien. Mais vous allez forcément revenir avec une expérience très enrichissante dans vos bagages.
pour revenir sur ton arrivée en Hongrie, est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou sinon sur ton retour en France peut-être ?
Quand on est parti en Hongrie, donc on est arrivé à Budapest. On a pris le train pour descendre à Szeged. Et alors, la ville où on allait, c'était Szeged. Sauf que je ne sais pas comment on l'a prononcé. On a du mal le prononcer. Et il y a une autre ville qui est pas loin de la Roumanie qui s'appelle Szeged. Et donc, le train allait directement à Szeged. Alors, bah, nous, on avait les valises posées. On est parti avec des kilos de valises parce qu'à l'époque, on pouvait partir avec plusieurs kilos. Hein, c'était pas limité comme maintenant. Donc, on était très, très chargés et on s'est rendu compte que le train se vidait. Il faisait nuit. Il était 6h, moins 18h. Et là, on s'est retrouvés un peu... On était paniqués parce que il n'y avait plus personne. On a couru dans la gare qui était vide. C'est loin, mais on a dû arriver vers 20h, je pense. Et donc, je me rappelle, au guichet, personne ne parlait anglais, ni français. Et je ne sais pas, un coup de chance, quelqu'un nous a tapé sur l'épaule derrière, une dame qui était hongroise, mais qui parlait français. Et elle nous a aidés, on lui a expliqué qu'on voulait aller à Szeged. Et elle nous a dit, mais là, vous devez courir, prendre le prochain train qui arrive, parce que c'est le dernier qui arrive, enfin, qui part de Szeged pour aller à Szeged. Et donc, on a réussi, on a effectivement pris le dernier train, on est arrivé... Alors, on était aux aguets, hein, parce qu'on avait peur qu'il y ait encore un changement ou quoi que ce soit. Mais on est arrivé à Szeged, il était 23h30. Et donc, on a été accueillis par la famille que mon mari connaissait. Ils nous ont amenés à l'appartement, on s'est posés. J'avoue qu'on était très fatigués, parce qu'on est partis forcément très tôt le matin. On était d'Angers. Enfin, moi, je suis bretonne, donc on est partis de Bretagne à ce moment-là. Et le lendemain, la famille, très gentille, est venue, je me rappelle, à 6h30. Pour nous amener faire des courses. Donc oui, l'arrivée était assez mouvementée.
Pour finir, les élections européennes se dérouleront donc l'an prochain dans l'Union européenne du 6 au 9 juin, donc le 9 juin pour la France. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs par rapport à ces élections ?
Alors c'est vrai que les élections européennes, elles peuvent paraître assez loin en fait pour le quotidien des Français, mais il ne faut pas oublier que le vote, c'est l'acte du citoyen par excellence, donc c'est vraiment l'acte démocratique. Et il ne faut pas oublier que quand on vote pour un député européen, c'est le Parlement européen qui va aussi adopter toutes les lois au niveau de l'Union européenne, mais qui vont être transposées dans les États. Donc, au niveau de la législation nationale, pour une grande partie, ce sont les lois européennes hein, qui vont s'appliquer. Donc, pour donner un exemple qui va être parlant, c'est la suppression des frais d'itinérance, donc le roaming, au niveau de tous les pays européens. Donc ça, c'est une loi qui a été votée par le Parlement européen. Et aussi toute la garantie de la protection des données personnelles. Là aussi, c'est une législation européenne qui a été transposée dans les États. Donc voilà, ces lois qu'on a, nous, qu'on connaît peut-être au quotidien, il ne faut pas oublier que ce sont des lois qui sont votées au niveau de l'Union européenne. Et donc, il faut voter. N'hésitez pas à aller voter et prendre un peu de temps, non seulement pour connaître les candidats et puis faire la démarche d'aller voter.
Bien, merci beaucoup, Laureline, d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite une très bonne continuation à Angers et on espère que ce témoignage donnera envie aux auditeurs de peut-être tenter l'expatriation en Hongrie ou dans un autre pays de l'Union européenne. L'Europe dans le micro, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio G.